18h, 19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Eh bien bonsoir, bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver. Vous le savez, c'est chaque soir, on est ensemble pour commenter, analyser et décrypter l'actualité. Alors de 18h à 19h30, qu'est-ce que je vous propose? Eh bien, que de belles choses pour clore ce week-end. D'abord, Jean-Pierre Colombiès viendra répondre, ancien commandant de la police, répondre à vos questions. Beaucoup d'entre vous, évidemment, se sont retrouvés avec leurs enfants, je parle, hein, dans quelques incidents, dépourvus de moyens. Eh bien, vous savez, Jean-Pierre Colombiès peut répondre à vos questions, notamment quand on parle de manifestation, quels sont vos droits, quels sont aussi les devoirs, mais aussi les règles. Et puis, on reviendra aussi sur tous ces incidents que beaucoup déplorent, évidemment, les quelques débordements à la fois en Belgique, mais aussi à Fréjus et au nord de la France. On en parlera, on reviendra, mais on ne parlera pas des débordements, on parlera de la chose technique. Voilà, avec Jean-Pierre Colombiès. Alors, j'ouvre l'antenne aussi avec vous au 0153483000. Vous êtes très, très, très nombreux à vouloir y réagir. Comment préparez-vous le match de demain, à la fois avec la France, mais également l'inattendu, le Maroc? Avec qui vous allez le vivre? Est-ce que vous allez dans un café en famille? Bref, beaucoup me racontaient qu'ils allaient se retrouver dans des endroits où il y allait y avoir beaucoup de monde, et puis partager tout ça en communion, en fraternité, en solidarité. Eh bien, venez nous dire comment vous allez le vivre demain, puisque c'est un grand moment attendu parmi beaucoup d'entre vous le partagent. Et demain, peut-être que le Maroc risque de se retrouver, sait-on jamais, en demi-finale. Et là, pour le coup, effectivement, c'est pas l'histoire qui s'inscrit. Ce serait le premier pays africain à s'inscrire, à inscrire, évidemment, dans le marbre, si la demi-finale se fait demain. 0153483000, je vous attends. 18h30, c'est Michel Taube, le patron d'Opinion Internationale, qui viendra nous livrer son regard aiguisé sur l'actualité avec le Quoi de Neuf. Et puis, les débatteurs influenceurs, tout à l'heure. Maître David Libeski, Rafik Temgari, mais encore l'ancien commandant de la police, Jean-Pierre Colombiès, qui est arrivé en costume aujourd'hui, figurez-vous. Oui, vendredi, c'est costume. N'est-ce pas, hein? Voilà, eh oui, c'est ce qui vous attend jusqu'à 19h30. Allez, les informés, c'est tout de suite, c'est maintenant. Et plus que jamais, en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 18h, 19h30. Les informés, présentés par Adil Farkan.
Et c'est parti tout de suite pour l'interview du soir. L'interview.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
À l'interview avec Jean-Pierre Colombiès. Il était étonné, mon réalisateur. Il s'est dit, oui, je lance l'interview. Ben, oui, c'est ça, oui. Quelqu'un qui est l'homme invisible. L'homme invisible, bonjour.
Surprise.
Comment ça va?
Ben
oui.
Je vais bien.
Jean-Pierre Colombiès, ancien commandant de la police, mais également aussi le porte-parole des policiers indépendants. D'ailleurs, ça veut dire quoi, les policiers indépendants?
Union nationale des policiers indépendants, ben, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'ils ne sont affiliés, ne sont rattachés à aucun syndicat ni aucun parti politique. Donc c'est une parole totalement indépendante qui se veut, d'une certaine manière, lanceur d'alerte aussi, quelque part, et puis décrypteur de politique sécuritaire.
Lanceur d'alerte, vous en avez des choses à raconter ce soir,
justement. On a beaucoup de choses à dire, oui. On dit déjà beaucoup de choses.
Avec vous, je voudrais qu'on revienne sur le match et les débordements qu'il y a eu, justement. Et puis que peuvent faire aussi celles et ceux avec lesquels leurs enfants ont pu se retrouver en garde à vue ou peut-être interpellés par la police? Comment peut-on agir, hein, quand on est dépourvu de moyens? Mais également, on reviendra aussi, vous savez, sur le Covid-19, la Covid-19, avec vos commentaires aussi notamment. Vous aussi, le ministre de la Santé et de la Prévention, M. François Braun, eh bien, il est intervenu à 17h précise avec une longue conférence où il est revenu notamment sur la hausse du Covid, mais également aussi, surtout, il alerte avant les fêtes, à quelques jours des fêtes, eh bien, il appelle, vous savez quoi, à ce sursaut, mais surtout à pratiquer le masque, parce que c'est important avant de se retrouver pour les fêtes. Ça vous fait sourire,
masque,
je le sais. Eh bien, je voudrais vous entendre sur ces deux sujets, mesdames et messieurs, vous qui nous écoutez, partout en France, mais aussi également dans le monde. 01 53 48 3000, jingle.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Anthony attend vos appels. Vous savez pour comment préparez-vous le match de demain ? Est-ce que c'est en famille ? Est-ce que c'est avec des amis ? Est-ce que c'est au sein d'une association ? Est-ce que aussi dans un café ? Bref, comment vous préparez demain ce match extrêmement attendu ? Maroc-Portugal ? Eh bien, venez nous le faire vivre ici même au 01 53 48 3000. Autre sujet que j'aimerais évidemment, là où je voudrais vous entendre, c'est le Covid-19, la Covid-19. Alors, il y a eu le ministre de la Santé qui, lui, lance une alerte. Est-ce que ça vous fait peur ? Est-ce que ça vous lance une inquiétude ? On parle d'une hausse très importante. Est-ce qu'il faut reporter le masque ? Bref, je voudrais vous entendre au 01 53 48 3000. Jean-Pierre Colombiès, d'abord, réaction à cette conférence de presse, tout d'abord, même si on en reparle tout à l'heure, vous me faisiez référence en off des EHPAD, il fallait isoler les vieux, que... J'aimerais connaître votre point de vue.
Lanceur
d'alerte.
Les vieux en EHPAD, on va en reparler parce que c'est pour moi une mesure, une nouvelle fois catastrophique.
Pourquoi ?
On va être clair.
Oui.
Il y a pas simplement un rebond de la Covid, il y a tout simplement des infections hivernales, virales, bronchites, bronchiolites, grippe. Et donc, la peur du gouvernement, elle n'est pas tellement tournée essentiellement vers la Covid, elle est tournée vers le risque d'un afflux considérable vers les services hospitaliers qui sont toujours dans la même déprime, qui sont toujours dans cette situation déplorable que nous constatons depuis des années et vis-à-vis de laquelle le gouvernement n'a strictement rien fait de plus. De neuf. Donc ils ont cette peur panique. Alors si on conjugue
quand il vous dit le ministre de la Santé, il va y avoir une hausse des morts. Vous dites quoi vous ?
Mais vous rendez compte vous rendez compte de ce que ça veut dire ? Il va y avoir une hausse des morts. Je vous réponds oui, bien évidemment, parce qu'il y a toujours une hausse des décès en hiver, tout simplement. Oui. C'est comme ça, c'est la nature. Ça s'appelle la nature. Alors il y aura des décès liés à d'autres affections. Il y aura des décès probablement liés à la Covid associé. Il le dit lui-même d'ailleurs à des comorbidités ou à des cas pathologiques de personnes particulièrement fragiles. On le sait, mais balancer ça comme ça, il y aura des morts, ça veut dire quoi ? C'est encore lancer un message anxiogène, faire peur aux gens, les faire paniquer. Moi, le message que j'en profite, mais j'ai déjà dit plusieurs fois sur cette antenne, c'est que les personnes qui sont justement dans ces cas d'extrême fragilité, soit très âgées, soit qui ont des pathologies très lourdes, obésité, cardiopathie très lourde, je pense aux ceux qui font de l'hypertension, aux personnes qui ont des cancers très lourds. À ces personnes-là, je dis, mais protégez-vous. N'attendez pas, effectivement, que le gouvernement vous le dise. Et je pense que, très, très naturellement, mécaniquement, ces personnes-là se protègent déjà. Elles l'ont compris. Mais tenter de faire peur à toute une opinion publique et culpabiliser une opinion publique par rapport à ça, j'ai envie de dire une chose simple, ça suffit. Ça suffit. Parce que ce sont les mêmes qui, il y a 2 ans et demi, nous disaient que le masque ne servait à rien. Donc ça commence à bien faire. Donc simplement, oui, que les gens très fragiles se protègent. Vous savez, j'ai pris le métro, il y a quelques minutes, pour venir ici.
Vous avez mis le masque ?
Mais non, j'ai pas mis le masque.
Pourquoi ?
Parce que j'en ai assez de mettre le masque, simplement.
Quand vous vous retrouvez en métro, c'est un rush. Pourquoi ne pas mettre le masque ?
Parce que ça m'agace, ça devient chaud, j'ai du mal à respirer. Voilà, je vous réponds très clairement. Oui. J'ai du mal à respirer avec le masque. Ça me donne chaud. Je le transpire avec ça. C'est très pénible à porter et je suis pas le seul à le dire.
Vous vous mettez pas en péril ?
Non mais non.
En
non,
danger ?
Non, moi non. Non.
Non mais je vous pose la question.
Non, en tout cas, j'en ai
pas. Quand vous vous retrouvez dans une scène où évidemment vous êtes en plein rush, l'heure de pointe, c'est ce qu'on appelle l'heure de pointe, avec plein de gens. Vous savez pas qui est malade, qui n'est pas malade.
Oui, mais dans la rue, c'est pareil.
Donc la probabilité dans la rue, non, vous êtes en plein air.
Elle est plus forte.
Vous êtes en plein air en plein rue.
Je suis d'accord, elle est plus forte, la probabilité est plus forte. Mais je le dis, je le répète, ceux qui ont peur, ceux qui se sentent fragiles, qui ont peur du virus, de tous les autres virus, qu'ils se masquent, il n'y a aucun problème. Et il y a déjà pas mal de gens qui mettent le masque dans le métro, ils n'attendent pas les circonvolutions, les gesticulations gouvernementales.
Qu'est-ce que vous observez dans le métro ? Il y a plus de gens qui mettent le masque désormais ?
Ah, oui.
Ils sont sensibles ?
Ah oui, à l'évidence.
À l'évidence, il y a
des jeunes, des moins jeunes, je vois toutes sortes de catégories.
Depuis combien de temps, une semaine ?
Non, ça fait un petit moment déjà que je vois des gens, comme tous les usagers d'ailleurs du métro, je ne suis pas tout seul, il n'y a pas que Jean-Pierre Colombiès.
À un moment, on avait dit qu'on avait lâché.
Oui, bien sûr qu'on a relâché, bien sûr, parce que l'été a été normal, j'ai envie de dire.
J'ai lâché, c'est lâché prise. Hein.
Oui, mais l'été a été tout à fait normal, l'automne aussi. Bon, là, il y a un hiver qui s'annonce très froid. Je pense qu'il y a une peur panique de toute façon de ce gouvernement, parce que tout craque. tout craque. Les transports, la santé, l'énergie. Et ça, ça pose un véritable problème. Donc ils ne veulent pas, de mon point de vue, surajouter un problème à ceux qui sont déjà préexistants.
Oui, oui.
Donc c'est un appel à la prudence. Mais on va revenir sur les EHPAD. Je viens d'apprendre, pas plus tard qu'il y a quelques instants, qu'on était en train d'isoler des vieilles personnes dans les EHPAD. Mais vous vous rendez compte, on les met en prison dans leur chambre. Mmh. Ça veut dire qu'ils ne peuvent plus voir leur famille. Et moi, j'ai connu des cas où des personnes très âgées étaient scandalisées par cette situation. Parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on met des
gens... On leur impose ?
Mais bien sûr, on enferme ces gens-là qui sont déjà très âgés, on les empêche de voir leur famille. Et vous savez ce que ça provoque, Adil ? Ça provoque tout simplement une mort par glissement. C'est-à-dire qu'on va faire mourir des gens en bonne santé. Voilà. Mais on les aura protégés du Covid. Donc tout le monde aura sa bonne conscience pour soi. Ah, ils ne mourront pas avec le Covid, ni avec le Covid, mais ils mourront en bonne santé et seuls, isolés de leur famille. C'est purement et simplement scandaleux.
Dans ce cas-là.
Et le directeur, d'ailleurs...
Vous disiez, alors,
non mais faut laisser les gens qui sont pas...
Permettez-moi, Jean-Pierre Colombiès. Vous disiez un instant justement que les personnes qui étaient un peu plus fragilisées, bon, devaient se protéger, etc. Oui. Sauf que là, les vieux dans les EHPAD, eh bien, on doit imposer cette
pourquoi,
règle, les protéger.
Pourquoi cloîtrer les gens qui ne sont pas porteurs ? Non mais c'est ça que je dis. Attendez, vous avez des gens parfaitement entre guillemets sains qui n'ont rien. Eh bien, ceux-là, on les enferme quand même. Alors qu'on isole les gens qui sont...
Parce qu'on veut réduire le risque.
Non, mais on n'a qu'à faire des tests généralisés et laisser vivre les autres. Moi, j'avais une très bonne amie qui est morte cette année, qui avait plus de 80 ans, 85, 86 ans. Elle est morte parce qu'elle a fait un AVC. Elle refusait à ce moment-là. Elle vivait en résidence pour personnes âgées. Elle refusait cet emprisonnement, cet enfermement, parce qu'elle était privée de ses enfants. Ça l'a rendue, et ses petits-enfants, ça l'a rendue extrêmement malheureuse.
Et malheureuse, ça lui a provoqué un AVC.
Ben, je pense que ça n'a pas arrangé les choses. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes âgées, très fragiles psychologiquement, qui ne pouvant plus voir leur famille d'une manière ou d'une autre, se laissent glisser et se laissent mourir, tout simplement. Il faut vraiment avoir ça en compte.
Ben, je voudrais avoir les sentiments des auditeurs. Je voudrais vous entendre au 01 53 48 3000. Évidemment, venez exposer, nous dire qu'est-ce que vous en pensez d'abord. Et puis, comment vous réagissez face à tout ça par rapport au Covid. Et puis surtout, ce que vient de dire Jean-Pierre Colombiès. Oui, Jean-Pierre.
Oui, dernière petite précision. J'entendais un directeur d'EHPAD qui disait exactement la même chose. On ne s'est pas concerté, hein, je vous rassure. Mais il disait, mais c'est complètement dingue qu'on isole des gens malades. Ils ne sont pas malades d'ailleurs, ils sont porteurs du virus. Qu'on les isole, très bien. Qu'on teste tout le monde. Why not ? Très bien aussi. Et qu'on laisse vivre les autres. Enfin, on va pas vivre cloîtrer toute notre existence et on va pas emprisonner systématiquement des personnes fragiles et âgées. Parce que ça sert à quoi d'isoler des gens qui ont 97 ans, 100 ans ? Il y a beaucoup de personnes de 100 ans dans les EHPAD. Alors, à 100 ans, ils ne voient plus leur famille. Voilà, très bien. Ah, ils vont être en bonne santé, il n'y a pas de souci. Mais ils vont être seuls, désespérément seuls. Et ça, c'est scandaleux.
Ça vous scandalise ?
Oui, ça me scandalise.
Eh bien, est-ce que vous pensez que Jean-Pierre Colombiès a raison ? Venez nous dire ce que vous en pensez. 01 53 48 3000, je vous attends au standard. On marque une courte pause et on se retrouve dans une poignée de minutes. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, et les informés, présentés par Adil Farkan.
Et il est 18h19, précisément, bienvenue, vous êtes avec Jean-Pierre Colombiès avant de retrouver le Quoi de Neuf, mais également les débatteurs influenceurs qui sont déjà en place. Et ils n'ont qu'une seule hâte, c'est de s'emparer du micro. Jean-Pierre Colombiès, vous voulez bien qu'on ouvre l'antenne, maintenant ?
Je suis tout à fait disponible.
Allez, allons-y. Nous allons accueillir Anis de Riss Oragis.
Oui.
Anis, bonsoir. Comment ça va, mon cher Anis ?
Ça va.
Vous faites quoi dans la vie, mon cher Anis ?
Je suis grutier.
Eh bien, bienvenue. Super, on vous écoute, cher ami, par rapport au Covid ou par rapport au match de demain. Je vous laisse le choix.
Bon, on va parler du Covid, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur.
Ouais, c'est pour ça que Jean-Pierre, là, vous avez vu son coup de gueule aujourd'hui ?
Bon, alors, concernant le masque...
Le match ou le Covid ?
Vous venez de nous dire le Covid, parce que ça vous tient à cœur et vous commencez par le match.
Non, pas le match, le masque.
Ah, le masque. Jacques Jean-Pierre, on a compris le match.
Oui.
Alors, le masque, on vous écoute, mon cher ami.
Bon, concernant le masque, je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui. Je trouve que le masque, il a servi quand même, parce que l'année dernière et les précédentes années, on a eu Covid-19. Tous les gens qui étaient dans le rush, dans les métros, tout ça, là, ils étaient masqués. Les écoles, pareil, on n'a pas eu d'histoire de gastro ni quoi que ce soit. Ça, c'est mon premier point. Ensuite, le deuxième, c'est concernant Covid. Moi, le 18 mars dernier, j'ai perdu ma mère. Covidé, suite à une fibrose pulmonaire. Et je pense que si elle n'aurait pas tapé les trois vaccins en question, à cette heure-ci-là, à l'heure où je vous parle, je pense que sa fibrose pulmonaire qu'elle avait depuis des années-lumière, elle ne se serait jamais déclenchée. Elle aurait été encore vivante aujourd'hui. Ça, c'est mon point de vue. Donc, bon. Covid, vaccin, et puis tout ce qu'on peut dire, pour moi, tout ça, ça a été de la belle connerie.
Jean-Pierre Colombiès.
Bonsoir Anis. Si j'ai bien compris, vous pensez, parce que j'ai peut-être pas bien compris, parfois la réception n'était pas terrible, vous pensez que le décès de votre maman est lié au vaccin, c'est ça ?
Exactement.
C'est ce qu'il a dit.
Bah alors c'est une vraie question parce que c'est pas la première fois qu'elle est posée. Il y a beaucoup de personnes.
Je vous dis ça. Ma mère, depuis 20 ans, elle a toujours eu une fibrose pulmonaire minime. Elle a été contrôlée, tout ce qui s'ensuit. Le jour où elle a tapé ces trois vaccins, je vous assure, ça a été la dégringolade. Ça a été la descente aux enfers. C'est pour ça que je me pose la question. Je me dis, peut-être qu'elle ne les aurait pas tapés, ces vaccins. À cette heure-ci, elle aurait toujours été avec moi. Vous voyez ce que je veux dire ?
Ouais,
très bien. Pour moi, dans ma tête, c'est une certitude. Comme vous disiez tout à l'heure, souvenez-vous de vous couper, les personnes âgées dans les EHPAD qui restent bloquées parce qu'ils ne peuvent pas voir leur famille, ainsi de suite. C'est vrai que moralement, ça joue. Et le masque, pour moi, il est très important.
Le masque est très important pour le coup, là, quand vous avez un cas de figure comme celui d'Anis. Jean-Pierre Colombiès.
C'est exactement ce que j'ai dit. Je dis que les personnes fragiles doivent se protéger. Il n'y a aucun souci là-dessus. Maintenant, la question qui est posée sur l'impact possible, parce que scientifiquement, il faut le prouver, d'un vaccin sur une aggravation de pathologies préexistantes, ça, je ne suis pas placé pour répondre à cette question. Et je crois, malheureusement, qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui peut y répondre. Il y a tout un débat là-dessus. C'est très controversé. Vous avez le droit de vous poser la question. Maintenant, moi, ça, je n'ai pas la réponse. Mais la seule chose que je peux dire, c'est qu'effectivement, des personnes comme ça, votre maman, mécaniquement, elles doivent se protéger, c'est évident.
Jean-Pierre Colombiès. Anis, on a des cas de figure, vous savez, qui sont similaires aux vôtres. On a Karim Alouache, notamment, qui, lui, est gravement tombé malade, notamment. Rappelons-le, Karim Alouache, bonsoir.
Bonsoir.
Karim Alouache, qui était dans le coma, hein, je le rappelle, il a fait donc les urnes, il a couvert l'élection municipale, c'est bien ça, et il est tombé, il a sombré dans un coma pendant 3 mois. Évidemment, on a un survivant avec nous. Karim Alouache, qu'est-ce que vous répondez à Nice ?
Alors moi, ça m'est arrivé en mars 2020, donc il n'y avait pas.
Et il a perdu la vue, d'un œil.
Il n'y avait pas de vaccin en mars 2020, il n'y avait même pas de test.
Et pas de masque non plus, je vois.
Il n'y avait pas de masque non plus, et un jour, il faudra faire la lumière là-dessus pour les élections.
Bien dans le micro.
Ouais. Et j'espère que j'obtiendrai un jour gain de cause en disant que la reconnaissance d'État de tous les assesseurs qui
on a un miraculé à Nice avec nous
le Covid
miraculé c'est vraiment le
certains
terme
certains s'en sont sortis beaucoup sont décédés dans le cas que vous présentez je suis vraiment navré
je suis vous êtes d'accord avec moi vous êtes un miraculé
bah écoute j'estime que je suis miraculé malgré le handicap que j'ai maintenant mais pour revenir au monsieur je suis vraiment navré pour votre maman. La particularité.
Cela dit, il est vacciné, Karim Alouache.
À d'autres personnes. Non, mais c'est important ce qu'il a dit, c'est que sa maman avait une pathologie. Et on sait que le virus, et quand on vous fait un vaccin quelque part, on contribue à l'activation du virus, a tendance à inflammer les pathologies existantes.
Tout à fait.
Voilà. Par rapport à quelqu'un qui n'a pas de pathologie. Quelqu'un qui n'a pas de pathologie, qui est âgé ou pas âgé, d'ailleurs, à la limite, moi, je n'ai pas de débat, c'est fait de vous faire.
Si on a un médecin qui nous écoute ce soir, il est le bienvenu, 01-53-48-3000, chers amis.
Quand on a une pathologie, je comprends qu'on se pose la question, surtout la pathologie de votre maman, qui est quand même pulmonaire, et je crois que ça aurait dû extrêmement être accompagné. On ne peut pas. Je comprends votre désarroi, et je l'entends. Là où vous avez raison, c'est qu'il faut absolument porter le masque, se protéger. Je ne sais pas, en fait, si on peut associer ça au vaccin ou pas.
Non.
Ce que je peux vous dire,
scientifiquement, on ne peut pas le prouver comme le dit Jean-Pierre.
Ce que je peux vous dire, c'est que moi, je ne faisais pas partie des statistiques des gens à risque. J'avais aucune raison de me retrouver dans le coma. J'ai pas de diabète, j'avais aucune pathologie. Et si j'avais pu éviter cette
situation... Et en bonne santé, Karim Alouache, c'est ça qui
voilà,
est arrivé.
Et si j'avais pu éviter cette situation, je m'en serais bien passé, voilà.
Après, absolument. Excusez-moi de vous couper, on peut se poser une question qui est toute simple. Un vaccin, généralement, quand on le met en place, au niveau de la population, on met combien de temps pour sortir un vaccin ? On met pas à peu près 5 années ? 5 années d'études et de recherche approfondie.
Il a dit 5 années pour sortir un vaccin. C'est un autre débat, effectivement.
Non, mais à cette question, on a déjà répondu. Un vaccin, ça met 5 ans parce que c'est fait par très peu de personnes sur une toute petite échelle et le temps de le roder. Là, c'est un vaccin qu'on a déployé en une année à peu près. Mais dites-vous que les milliers de chercheurs dans le monde ont tous travaillé en même temps sur ce sujet-là.
Tous convergés dans la même direction. Il faut qu'on avance, messieurs.
Il faut qu'on accumule là-dessus.
Faut qu'on avance. Merci à Nice.
Évidemment, mettez le masque et protégez-vous.
Exactement, vous avez raison absolument. Et vous avez tout notre... Et je vais vous dire une chose, Anis, vous avez tout notre soutien à vos côtés concernant votre maman, votre chère maman. Effectivement, moi, tout ce que je peux vous dire, évidemment, soutien, force et gardez l'espoir, évidemment, au fond de vous. Et si votre mère est partie, c'est probablement, évidemment, c'est ce qu'on appelle aussi le maktoub. Mais bon, que voulez-vous que je vous dise, moi? Ouais, voilà. C'est comme ça, Anis. C'est un peu la vie. Mais surtout, vous avez notre soutien à vos côtés.
Merci beaucoup.
Je vous en prie. Merci d'avoir réagi à l'antenne et surtout de nous avoir interpellés et interpellé Jean-Pierre Colombiès. On va aller à la Ciotat, dans le 13. Faïza. Bonsoir, Faïza.
Bonsoir.
Bienvenue, ma chère Faïza. Qu'est-ce que vous faites dans la vie?
Je suis médecin, gériatre.
Ah bah voilà, voilà, cling cling la petite clochette. Je cherchais un médecin. Voilà.
Vous l'avez.
Qu'est-ce que, alors vous venez d'entendre l'échange avec Anis.
Oui.
Vous avez tout entendu. Anis, ouais. J'aurais dû le garder Anis, mais il vous écoute ce soir. Qu'est-ce que vous lui répondez?
D'abord, en fait,
il dit que c'est lié au vaccin. Vous lui répondez quoi?
Pardon. Ouais, je vous coupe. Alors, d'abord, j'ai pris l'antenne par rapport au débat de votre collègue.
Avec Jean-Pierre Colombiès.
Je vous remercie de nous permettre aussi de pouvoir un peu échanger sur ça et avoir notre avis et échanger.
Bien sûr.
Je travaille dans un EHPAD, je sais comment ça se passe. Les Covid dans
donc faites attention,
EHPAD,
Jean-Pierre, à ce que vous racontez. Tout le monde vous écoute.
Alors, les clusters, ça, on connaît bien. On en connaît malheureusement, que ce soit les clusters Covid ou grippe. La personne âgée, c'est particulier, elle est vulnérable. On a sorti beaucoup de protocoles par rapport à la personne âgée. Donc, en fait, la personne âgée, quand on l'isole, c'est pas vraiment un isolement. Donc, voilà, je voulais répondre à ça. Il faut pas croire que, voilà, elle est dans sa chambre, elle sort pas et tout ça. On l'isole généralement maintenant, heureusement, on a avancé un peu par rapport à en 2020 ou en fin 2019, où effectivement, on avait vraiment le fantôme du Covid. On a beaucoup avancé. Malheureusement, on est tributaire de certains protocoles. Hein. On est obligé de... Allô ?
Vous écoutez, vous savez qu'on vous écoute. Et Jean-Pierre souhaite vous répondre, mais il vous écoute jusqu'au bout.
J'écoute.
Il est très attentif dans ce que vous dites. Hein.
Alors,
il secoue la tête dans tous les sens.
Voilà, quand on détecte... Je voulais juste réagir pour... en pratique, comment ça se passe, des cas Covid dans un EHPAD, surtout. Donc, en fait, quand on a des cas Covid, on a un certain nombre. Au-delà de 5, on est obligé de le signaler à l'ARS et du moins le CPS. Une fois le signalé, on est obligé de suivre certains protocoles et certaines démarches.
Oui.
Entre autres, quand on isole une personne, donc ça nous est arrivé de mettre quelqu'un dans une chambre, mais pas forcément ne pas sortir. Si on isole cette personne, c'est pour protéger d'autres personnes dans le service. Et par contre, cette personne continue à sortir, à être accompagnée. Les familles peuvent venir la voir en s'habillant. Malheureusement, on est obligé de poursuivre certains protocoles parce que, effectivement, quand on met quelqu'un dans une chambre, l'isoler sans sortir, il a raison. Il y a bien ce syndrome, ce qu'on appelle le syndrome de glissement, qui peut aller jusqu'au décès de la personne par dépression, par syndrome de glissement.
Syndrome du glissement. Voilà le terme qu'on cherchait tout à l'heure.
Exactement, le syndrome de glissement. Mais je vous rassure, on a beaucoup avancé dans la prise en charge du Covid. Au niveau des personnes âgées, on a les protocoles pareils, les protocoles nationaux, un peu azithromycine, rubozinc et lovenox, pour un peu protéger la personne. C'est des isolements généralement de 7 jours maximum, sauf si la personne, elle continue à avoir des symptômes. Donc, on continue quand même la vie au EHPAD, malgré les clôtures Covid. Mais par contre, on est tributaire aussi de certains protocoles et de certaines prises en charge qu'on doit respecter.
Bon, Faïza, je vous remercie de nous avoir apporté toutes ces informations extrêmement importantes. Jean-Pierre Colombiès, qu'est-ce que vous répondez à Faïza?
Non, mais
qui est docteur, pédiatre.
J'ai écouté très attentivement son commentaire. On sent bien qu'il y a un souci, effectivement, d'épargner au maximum la santé et les vies des résidents. Mais juste une petite question. Lorsqu'il y a des cas déclarés, 1, 2, 3, 4 ou 5, ceux qui sont en bonne santé, ou du moins ceux qui ne sont pas porteurs, sont-ils, oui ou non, isolés?
Faïza.
Pas du tout. En fait, ils ne sont pas isolés. Ça dépend aussi, je rebondis sur ça, parce que selon aussi l'architecture Je ne sais pas qui parle à côté.
Non, non, mais on vous écoute.
On vous écoute, on vous écoute. Prêtez pas attention à tout ça. Allez-y, Faïza, allez-y.
Alors, je voulais juste aussi rajouter une précision, c'est que selon aussi l'architecture de chaque établissement. Donc nous, on a la chance aussi d'avoir des services, qui veut dire les personnes qui sont isolées, bon, on les garde maintenues. Les autres, ils peuvent en plus ou moins continuer à y aller dans les salles à manger pour prendre leur repas et tout ça, aller à l'extérieur. On a la chance aussi d'avoir un grand parc. Oui, mais... Après, voilà, je vous dis, par rapport à avant, on a beaucoup avancé.
Excusez-moi,
Jean-Pierre, docteur Faïza.
Oui, excusez-moi, vous avez dit une chose très importante. Vous avez dit selon les structures. Donc, vous m'accorderez qu'il y a des possibilités pour que, selon les établissements, personnes porteuses ou pas, sont isolées.
On peut, oui. Il y a cette possibilité. Je ne peux pas vous assurer, mais il y a cette possibilité.
Bon, après, Faïza. Faïza, il faut que j'avance parce qu'il est 18h32 et on a le Quoi de Neuf qui nous attend. Vous avez raison, en tout cas, d'être.
Je voulais juste continuer sur le cas de Annie. Effectivement, je contribue à leur chagrin par rapport à leur mère. Et moi, je suis certaine, je reste persuadée que. Nous avons de la chance d'avoir ce vaccin de anti-Covid dans le monde.
Voilà, Annie, si vous écoutez, merci.
Merci. Il y a toujours des exceptions.
Et vous avez eu raison, cher docteur Faïza, d'être intervenu. Très bonne chose. Rachida de Paris, vous savez quoi, je devais vous prendre maintenant, mais on a une priorité. Ça s'appelle le direct et c'est le Quoi de Neuf. Rachida, ne bougez pas, restez avec moi. C'est le Quoi de Neuf, c'est parti.
Les informés, le Quoi de Neuf.
Et le Quoi de Neuf, comme chaque vendredi, c'est avec le grand Michel Taube, qui est le patron d'Opinion Internationale, mais également aussi, il est sur les plateaux de télévision pour commenter l'actualité. Mon cher Michel Taube, bonjour.
Bonjour mon cher et grand Adil.
Entre grands ça va, on se comprend.
Voilà, exactement.
Michel Taube, dites-moi.
Les grands c'est vos auditeurs et je salue les auditeurs de
C'est ça, vous avez tout dit, la classe internationale, les grands c'est les auditeurs. Dites-moi Michel Taube, vous avez décidé de consacrer votre édito, votre billet d'humeur, eh bien, à la fois au match de demain, deux matchs, le Maroc et la France, on vous écoute.
Oui, alors écoutez, on arrive pas loin de la fin de l'année, il faut un peu, on aurait pu parler de la vaccination, on pourrait parler de la guerre en Ukraine qui s'éternise, mais non, moi j'ai envie de, allez, on va lever le pied, on va parler de choses un peu plus légères, on va parler de foot, et moi j'espère, c'est juste
un
peu...
On va lui mettre un petit fond, tiens.
Voilà, je veux juste formuler un vœu ce soir. J'espère qu'on va avoir une demi-finale France-Maroc. Alors pour ça, il faut que la France batte l'Angleterre et que le Maroc batte le Portugal. Ouais. Alors le Maroc a déjà réussi l'exploit. C'est presque un événement géopolitique de battre l'Espagne.
Ça, c'est sûr.
C'est marrant parce qu'en plus, vous savez que l'Espagne et le Maroc se sont récemment rapprochés. Diplomatiquement, il y a eu un véritable sursaut, on va dire diplomatique de l'Espagne et donc les relations entre les deux pays sont extrêmement extrêmement importantes. Donc ça a été un véritable événement que la victoire du Maroc sur l'Espagne. Mais moi j'espère que la France va battre l'Angleterre, j'espère que le Maroc va battre le Portugal et qu'en demi-finale mardi prochain,
ça va être quelque chose.
On va pouvoir avoir un match qui sera grandiose. Qui, à mon avis, quel que soit le résultat, va enflammer.
La France va être enflammée, je vous le dis. Hein.
Ah, mais ouais, mais.
Et le Maroc qui seront enflammés. Et tout le continent africain, d'ailleurs.
Exactement. Et en fait, je trouve ça très intéressant parce que finalement, que le Maroc soit le pays du continent africain qui aille aussi loin dans la compétition. Ben voilà, c'est une forme aussi de victoire pour cette Coupe du Monde qui est le premier événement planétaire qui se passe dans le monde arabe. Et j'ai critiqué beaucoup de choses sur le fait que ça se passe au Qatar, mais je pense que ce serait vraiment un événement très très important. Il y a aussi une dimension très internationale. Je crois que quasiment la moitié des membres de l'équipe nationale du Maroc sont finalement des binationaux, sont nés en fait à l'étranger, nés en Belgique, nés en France, sont nés aux Pays-Bas.
En Espagne.
Voilà, en Espagne. Donc tout ça, je trouvais très, très...
En Angleterre.
Exactement.
Donc, au Canada.
Au Canada. Donc je trouve que finalement, ce qui se passe sur le terrain de foot est quelque part le reflet de la société et du monde dans lequel nous vivons. Et encore une fois, au-delà de ces enjeux de fond, c'est presque un coup de cœur je sais, mon cher Adil, et c'est le cas de beaucoup de vos auditeurs aussi,
sont, eh ben merci.
Sont des amis et de la France et du Maroc. Et donc voilà, j'espère que la semaine prochaine, lorsque, si vous m'appelez, vous, on pourra commenter les résultats de la demi-finale France-Maroc.
Eh ben je le souhaite, et on croise les doigts, effectivement, de tout cœur. Merci Michel Taub, et bon match pour demain.
Merci. Et vous serez pour qui si c'est France-Maroc?
Eh ben, c'est une vraie question. Vous savez ce qu'il a répondu, Jamel Debbouze? J'ai un père, une mère. Il a dit, j'ai un père, une mère. Très compliqué, évidemment, de se séparer d'un père. Très compliqué de se séparer d'une mère.
Voilà. Et
Adil, bon,
il y a encore
voilà.
plus compliqué.
Ah, là, c'est la déchirure, là.
Grosso modo, vous avez botté en touche, là.
C'est un peu ça, effectivement. On en reparlera, on en reparlera.
Voilà. Bon, allez, bonne soirée.
Merci.
Merci. Si le Maroc va en finale, on soutiendra le Maroc.
Ouais, ça, c'est. Écoutez, moi, on va voir tout ça. Allez, à tout de suite. Je lance la pub parce qu'on se retrouve dans une poignée de minutes. Il y a notamment Rachida de Paris et Jean-Pierre Colombier. C'est encore quelques questions, là, justement, 01-53-48-3000. Et puis, j'ouvre les micros pour les débatteurs influenceurs. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30. Les informés, présentés par Adil Farkan.
18h44 précisément, 43 même, pas encore que tout à fait 44. Nous continuons les questions-réponses. Les auditeurs ont la parole. 01-53-48-3000 avant de retrouver les débatteurs influenceurs. On a Rachida avec nous qui nous appelle de Paris. Bonsoir ma chère Rachida.
Oui, bonsoir.
Bienvenue. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ma chère Rachida?
Alors je suis consultante en évolution professionnelle.
Qu'est-ce que ça veut dire ça?
Ça veut dire j'accompagne les personnes dans leur changement de métier, de profession, création d'entreprise, etc.
En ce moment, c'est beaucoup, hein.
Oui. Bon, ça fait longtemps que je fais ce métier. Voilà. Ça a toujours été très fort. Mais là, en ce moment, effectivement.
Alors, Rachida, on vous écoute. Beaucoup.
Alors, moi, je voulais intervenir sur le Covid.
Oui.
Donc, deux choses. Alors, j'ai également été hospitalisée pour le Covid en mars 2020.
Oui.
Avec assistance respiratoire. Donc, le masque, c'est niet. Je ne veux plus porter le masque parce que c'est insupportable.
Comme Jean-Pierre.
Puis cette sensation de ne pas pouvoir respirer, c'est horrible. Merci. Donc, je ne porte plus le masque. C'est un choix. Après, effectivement, que les personnes fragiles se protègent, bien évidemment. Et deuxième chose aussi, par rapport à Nice, alors j'ai également perdu ma maman qui avait la même maladie que sa maman, c'est-à-dire une fibrose des poumons, qui, elle, s'est fait vacciner, pas de réaction. Alors, elle n'est pas décédée du Covid, elle est décédée de sa maladie, parce que c'est une maladie assez particulière. Et a priori, de ce que disent les médecins, on n'en vit pas plus de 3-4 ans. Donc, voilà. Après, je pense que chaque personne est différente, hein, bien sûr.
Votre mère est toujours en vie.
Je voulais un petit peu échanger avec lui là-dessus, parce que c'est vrai que c'est douloureux,
elle est décédée,
bien évidemment.
Elle est décédée.
D'accord.
Oui.
Voilà, merci, c'est important. Non, mais c'est important de partager les avis. Vous avez raison. C'est...
Oui.
Je ferai une émission. Vous savez quoi, chers amis auditeurs, ça vient de me donner une idée, là, comme ça, voilà, je réfléchis tout. Oui. Je ferai venir un médecin, un spécialiste, et puis on parlera évidemment de tous celles et ceux qui ont subi un vaccin et qui a provoqué chez eux, qui a déclenché en tout cas des effets secondaires ou pas. Mais on va faire une émission là-dessus autour de ça. Voilà, avec un spécialiste sur le plateau. Merci Rachida.
Donc, bonne soirée à tout le monde.
Non, mais la réaction de Rachida me paraît logique et mécanique. On ne peut pas masquer les gens éternellement, c'est pas possible. Même si ça part d'un bon sentiment, moi je veux bien, mais on nous a raconté tellement tout et n'importe quoi pendant des années, des mois, enfin pas des années, pendant des mois, on nous a raconté absolument n'importe quoi. Donc moi je veux bien tout entendre, mais comme elle vient de le dire, moi quand je porte un masque, j'arrive plus à respirer. Voilà, c'est comme ça.
Ça vous étouffe.
Ça m'étouffe, ça m'oppresse, et au bout d'un moment, j'en ai marre. Voilà. Et quand en plus l'ordre vient de gens qui disaient exactement l'inverse il y a 2 ans, ben, excuse-moi, mais mécaniquement, j'ai comme qui dirait la rabia, comme on dirait en espagnol.
01-53-48-3000, continuez à venir nous parler du Covid et ses effets, et puis ceux qui ont subi des vaccins et qui ont provoqué, évidemment, qui ont déclenché en tout cas certains effets. Hein, comme
et au passage, je précise que je l'ai eu aussi, le Covid, au moment où c'était la mode, et qu'effectivement, on ne réagit pas tous pareil.
Tous pareil.
Moi, étonnamment, j'étais bien, entre guillemets. J'étais bien.
Chacun le... Chacun.
Voilà. Et j'ai un copain aussi qui a fini hospitalisé.
Je ne sais pas expliquer pourquoi certains finissent en réa. Je parle des gens qui n'ont aucune pathologie.
Ouais, ouais.
Et d'autres, il ne se passe rien. On nous dit que ça dépend combien de temps tu es resté en contact avec le virus et quelle était la charge virale des personnes qui t'ont... à la limite, tu crois...
D'ailleurs, je ne vois plus avec le masque. Vous venez souvent à la radio avec le masque et tout, etc. Vous surprotégez et tout. Là, vous le faites
non,
plus
mais
du tout.
Alors, j'ai pris des réflexes. Quand je suis malade, je porte le masque tout le temps. Enfin, tout le temps, c'est-à-dire avec du monde. Mais maintenant, même pour une rhino, truc, c'est ce qu'on ne faisait pas avant, ce qu'ont toujours fait les Asiatiques.
Ah, exactement. Oui, oui.
Et c'est pour ça que j'accuse de mauvaise
Allez, vous savez quoi, on va parler du Covid.
Attends,
allez, justement.
La deuxième chose, quand je suis dans des lieux où il y a du monde, je... Par exemple, J'ai fait 15 heures de vol la semaine dernière, et ben j'ai porté mon masque tout le vol.
Voilà. Messieurs, le face-à-face, c'est parti.
Les informés, le face-à-face.
Je ne représente plus Jean-Pierre Colombier, sans son commandant de la police. Rebonsoir.
Rebonsoir.
Je ne présente plus également, puisqu'il a pris la parole tout à l'heure, Karim Alouache dans la finance, mais également un acteur politique local. Bonsoir.
Bonsoir.
Rebonsoir également. Un avocat parmi nous, spécialiste de toutes les questions, évidemment, y compris des gilets jaunes. Attention, maître David Ibeski. Bonsoir, maître.
Bonsoir, cher Adil.
Un autre élu, c'est celui de Roel Mamaison, mais également aussi dans la finance, un peu comme Karim Alouache. C'est Rafik Tamgari.
Bonsoir, Adil.
Ça va, on a beaucoup de.
Où j'ai joué.
Mais on a deux personnalités de la finance. Là, ça pèse, là, ça y est. Ça y est, là on se sent bien tout d'un coup. Et la police-justice, là, exactement. Là, on est bien entouré. Hein. On a l'argent.
La
loi
contre
l'argent.
C'est ça.
Et la comédie, parce que j'ai joué.
Ah oui, c'est vrai, vous êtes comédien.
Oui, j'ai joué au théâtre de la Téné à Rueil Malmaison le mois dernier.
Absolument, à Rueil Malmaison.
Ça s'est bien passé.
Grâce à Rafik.
Salle pleine, deux
représentants. Grâce à Rafik.
C'est pas grâce à Rafik.
Moi, je pensais que c'était grâce à vous, moi, Rafik, Tamgari. Bah, faites-le revenir.
Il reviendra. Bienvenue.
Il a fait salle pleine. On a fait salle comble deux fois, donc il y a un très très bon public à Rueil.
Vous êtes chez lui, là, vous savez, vous êtes chez lui.
Bah, je t'annonce qu'il y aura une troisième fois pour les élus, parce que
avec plaisir.
Partout, on va jouer où vous
Rafik n'est même pas venu.
On invite surtout les auditeurs à venir.
Une comédie policière en plus.
Mais si on va rester sur le sujet du Covid, vous savez que tout à l'heure, le ministre de la Santé s'est exprimé. Il a appelé tout le monde, tous les Français, à un sursaut, notamment à reporter le masque quand on se retrouve dans les transports en commun. Mais également, il dit qu'il y a une hausse, vous savez quoi, une hausse à rebond du Covid-19 et qu'il y a cette crainte d'avoir de plus en plus de morts dans les hôpitaux. Bon, est-ce qu'on est en train, évidemment, de réalarmer, de préparer psychologiquement celles et ceux qui nous écoutent? Que faut-il comprendre, Karim Alouache? Faisons un tour de table.
Ah, non, mais moi, je pense que d'abord, ce qui m'alarme, c'est la situation des hôpitaux, c'est pas le Covid. Ouais. Et quand on voit qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à accueillir des petits pour des bronchiolites, qu'on les envoie dans des hôpitaux à 200-300 km, hein, c'est ça. Quand on voit qu'on n'arrive pas à ouvrir des lits de réa parce qu'on n'a pas de personnel, c'est pas qu'on veut pas, c'est qu'on n'a pas de personnel aussi, on le dit pas. Moi, j'ai envie de dire, mais y a un truc très simple. On parlait de la situation des hôpitaux pendant la crise du Covid. Donc, on a fait un constat.
C'était on a fait un Ségur.
Voilà, ça fait deux ans maintenant. L'Allemagne, en deux ans, j'aime pas comparer à l'Allemagne, mais de temps en temps, il y a des choses pas trop mal. Mmh. Ils ont doublé le nombre de personnes formées en termes d'infirmières. Puisqu'on a vu quand même, les infirmières ont joué un rôle essentiel dans la gestion. En France, on a augmenté le nombre de personnes formées de 2,7%. 2,7% quand les autres ont fait 100%. Donc, on n'a rien fait. Autant dire que nous n'avons rien fait. En ce qui concerne le Covid, moi, je crois qu'il faut tout savoir. Il ne faut pas paniquer.
Info, comme on est en direct et que vous savez, breaking news, comme on dit, hein, la Croatie a battu donc le Brésil.
A battu le Brésil.
Absolument. Voilà. Elle a éliminé carrément le Brésil. Donc, tir au but, 4-2. Tir au but. Prolongation 1-1 et ensuite après 4-2.
Je vais finir par croire
que c'est le cas. Voilà.
Ça veut dire que la Coupe du Monde est vraiment ouverte. Non, après, pour en venir.
Ah, bah là, tout est ouvert maintenant.
Moi, je crois qu'il ne faut pas s'alarmer, il faut avoir un comportement de bon sens. Il y a des choses à faire. Quand on est malade, c'est de se dire. Quand j'ai un doute, ben je m'isole avec un masque. Et puis, si ça perdure, d'abord, aller voir un médecin et surtout aller faire un test. Aujourd'hui, c'est assez rapide. Et si on continue à avoir un bon comportement, moi, je ne suis pas inquiet. Franchement, je ne suis pas inquiet sur la reprise. Je suis plus inquiet sur la situation des hôpitaux pour des pathologies.
Alors, Jean-Pierre Colombiès, faisons un tour de table, s'il vous plaît. Jean-Pierre Colombiès.
Ce sera rapide parce que je me suis beaucoup exprimé.
Rapidement, alors, avant de donner la parole.
Mais non, mais je vais être parfaitement dans le même sens. Il y a un problème dans les hôpitaux. Et ce que craint le gouvernement, c'est la conjonction de toutes les pathologies. Covid, grippe, bronchite, bronchiolite, enfin, tout ce que vous
voulez. Tout ce qu'on peut. Voilà. Maître David Lemesquide. Avec le micro ouvert.
Il est ouvert, là, le micro?
Oui, c'est bon.
Voilà. C'est parti, ça recommence, le message anxiogène, on va en entendre parler tous les jours à BFM, à CNews, dans tous les télés mainstream. Donc voilà, le masque, il faut peut-être le porter, mais de manière temporaire, quand on prend les transports, quand il y a du monde, mais pas de manière permanente. Le vaccin, ils vont pas nous refaire le coup pour la troisième ou quatrième dose. Voilà, faut faire attention aux gens qui ont des pathologies, faut faire attention aux personnes âgées, peut-être de plus de 65 ans, Mais il faut arrêter, en fait, de donner ce message anxiogène, de faire peur, etc. En fait, le vaccin, je suis désolé de le dire, mais je le rappelle, je le disais il y a 2 ans.
Vous l'avez dit dans ce micro, même.
Voilà, j'ai dit dans ce micro, il n'est pas efficace à 100%.
Oh, attention, on clochette.
Non, parce que le gouvernement nous avait promis, il y a quelques années, rappelez-vous, tous vaccinés, une population vaccinée à 80%, tout va bien.
Il ne fait que rappeler des faits.
Non, non, je ne rappelle que des faits. La vérité, il n'y avait pas d'immunité collective, même les gens vaccinés.
Karim Alouache, s'il n'avait pas été vacciné, comment il aurait fait?
Non, mais moi aussi, j'ai
eu le Covid. Ce qui est clair, c'est que si j'avais été vacciné, mais en mars 2020, il n'y a pas de vaccin, je n'aurais peut-être pas vécu.
Si vous voulez, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution efficace à 100%. Voilà.
C'est la règle.
Non mais je vous écoute. Non, je vous écoute.
Et puis aujourd'hui, n'a pas changé.
Attendez, je marque juste une pause.
Aujourd'hui, il y a une recrudescence de grippe. Donc il y a la grippe.
Énormément. Énormément. Messieurs, 18h53. Je suis obligé de lancer. Il y a Anthony qui me dit lance la pub, sinon tu vas te faire. Sinon on a coupé. Mais si, après je vous donne la parole. Sinon c'est pas ça. C'est que ça se déclenche tout seul et les micros se coupent automatiquement. Alors on lance la pub.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h, 19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan.
Il est 18h55, merci d'être avec nous. On vous écoute, hein, vous savez, vous êtes en direct, hein, chers amis. Je devais donner la parole d'abord à Rafik Temgari, qu'on n'a pas entendu sur la question du Covid et évidemment sur la conférence de presse de la santé, M. François Boulon.
Non, on va essayer quand même de l'être. Quand même.
J'ai cru que t'allais dire qu'il va être politique.
On va essayer aussi, hein. C'est le but. Non, mais surtout être objectif. Moi, je pense que le taux augmente de contamination, qu'on le veuille ou pas. On est à 600 cas sur 100 000, donc ça commence un petit peu à augmenter. Sauf que je prends ma casquette de communicant aussi. Je me dis qu'il y a toujours des problèmes de communication avec du gouvernement. Ouais. Aujourd'hui, le président de la République porte le masque, alors qu'il ne le portait pas quelques jours auparavant. On dit que, je ne sais pas, on n'a pas envie de revenir vers des obligations généralisées, mais on fait en sorte de donner l'exemple. Alors que c'est là où je me dis que c'est des signaux qui ne sont pas vraiment très clairs et vaut mieux être clair avec les administrés, avec les citoyens. Je pense qu'à un certain moment, il faut faire en sorte d'avoir un message clair. Aujourd'hui, il y en a tant. Voici les courbes. Je pense que toutes les agences de santé ont des projections. On arrive à savoir quelle épidémie, combien ça monte, ça descend, etc. Donc je me dis, les Français sont en droit de savoir, déjà de faire un bilan sur ce qui s'est passé. Là maintenant, on a assez de recul pour savoir si le vaccin a été bon ou pas. Donc aujourd'hui, on n'a pas de bilan.
Non, je ne suis pas sûr parce que c'est octobre 2023, me semble.
Oui,
c'est
en 2023. On a plus
d'une année de Covid. Non, mais c'est encore expérimental, les vaccins.
Oui, donc on peut avoir un premier retour. Aujourd'hui, les Français ne connaissent pas le retour sur la vaccination. Et entre nous, je pense que ça ne va pas être les sujets de l'avenir. Là, on passe un petit peu au délestage. Je pense que ça sera un autre sujet à traiter.
C'est pour ça qu'ils mettent l'accent sur le retour du Covid.
Exactement.
C'est pour éviter qu'on aborde à un moment donné
les sujets.
Mais complètement.
Donc j'ai vu que le gouvernement a déjà mis en place une deuxième application. Au départ, c'était tous anti-Covid. Maintenant, c'est EcoHat. Ça part comme ça. Donc, je pense qu'on va tous être liés avec ce nouveau
sujet. Second sujet, messieurs, vous avez parlé de coupure d'électricité. Justement, il y a eu une énorme panne d'électricité à Paris. Oui. Gros coup de panique. Vous savez, c'est 125 000 clients qui ont été concernés avec cet incident. Ça se passait donc jeudi soir. Alors, Enedis précise que le courant a été rétabli avec la quasi-totalité des clients en moins de entre 20 et 30 minutes. Bref, beaucoup on pensait que c'était ça y est, la séance délestage et coupure d'électricité. Ça vous fait sourire, maître?
Oui, parce qu'en fait, il y a eu un communiqué de presse d'Enedis.
On nous prépare RTE.
Concernant les coupures, que c'était un incident technique.
Oui, mais est-ce que c'était un incident technique ou c'était une petite prépa?
On ne va pas être complotiste, on va pas être paranoïaque.
Une séance de...
Non, mais je pense que c'était un incident technique, puisque Emmanuel Macron, quelques jours avant, avait dit... ne paniquez pas, tout va bien se passer. Enfin, comme d'habitude, hein. Ne paniquez pas, tout va bien se passer.
Ne paniquez tellement pas que 125 000 se retrouvaient en panique.
Voilà, le lendemain, en fait, coupure. Dans 4 arrondissements de Paris, je crois.
Et attention,
Karim Alouache.
Tout a été coupé. Hein. C'est pas la coupure sélective, c'est blackout total. Quoi.
Ouais, c'est ça, dans le noir total.
Non, mais je veux dire, on n'a pas préservé. Parce que le principe, c'est de dire on coupe à tel endroit, mais on préserve. les centres hospitaliers. Enfin,
cas par cas.
Là, c'était coupure totale.
Oui, parce que c'est un incident technique.
Le problème, si je puis me permettre, pour rebondir sur le propos tout à l'heure sur la communication, ce gouvernement souffre de ce qu'il est, c'est-à-dire confus. Et qu'il y a tellement de messages contradictoires que plus personne ne se repère, ne sait à quel sens se vouer. Et au moindre incident, il y aura des mouvements de panique. Parce que le message, comme ça a été très, très justement indiqué, il n'est pas clair. Et c'est à chaque fois des consignes, des contre-consignes. Mais... Vous savez, Macron s'est comparé à Jupiter. Après, s'est comparé à Vulcain. Moi, je le compare à Éole. Éole, dieu des vents, prince des courants d'air. Voilà, c'est ça, Macron. C'est du vent.
Revoilà Jean-Pierre Colombier, le comédien.
Il n'est pas clair parce qu'il n'est pas sincère.
Carrément, c'est ça.
Mais le discours n'est pas clair parce qu'il n'est pas sincère.
Tout à fait.
Soyez raisonnable.
Maître David Libeskind.
Non, je ne vais pas défendre.
Maître David Libeskind.
Mais on ne va pas dire qu'il n'est pas sincère.
Vous savez très bien qu'habituellement, je le défends.
S'il vous plaît.
Je ne défends pas Emmanuel Macron.
J'ai dit le discours.
Un par un, s'il vous plaît.
Sanitaire, elle est temporaire. Je veux dire, il faut attendre les prévisions. Donc, je ne vois pas comment Emmanuel Macron ou le gouvernement peuvent avoir un discours clair sur cette thématique, parce qu'ils ne savent pas. Faut quand même en fait attendre l'avis des scientifiques, etc., pour savoir quelles sont les prévisions à venir. Après, il anticipe, il s'emporte trop, comme les coupures d'électricité. D'ailleurs, à chaque fois, il anticipe quelque chose, et puis il y a le contraire qui se passe.
C'est voulu. C'est de la communication.
Avec le Covid,
Les Français ont besoin d'une réponse immédiate. Souvent.
On a un peu de recul, on a un peu d'expérience. Il y a quand même une efficacité qui se mesure assez facilement. C'est le nombre de morts. C'est sans comparaison avec ce qu'on a vécu. Maintenant, faire un focus là, alors qu'en fait, sincèrement, c'est des mesures de bon sens qu'il faut avoir, que tout le monde devrait avoir. On n'a pas besoin de faire venir des médecins et sur les plateaux de télé pour ça. Mais en plus, on mélange tout. Là, il y a une... J'ai ma soeur et son mari qui sont médecins, ils sont submergés par la grippe.
Ah oui?
C'est pour ça, on mélange tout.
C'est une catastrophe.
C'est une catastrophe.
Et pourquoi? Parce que les gens ont tellement été focus Covid, qu'ils ont oublié de se faire vacciner contre la grippe.
Oui, c'est vrai.
Tout bêtement. Ouais. Et on oublie, la grippe tue 30 000 personnes par an.
Bien sûr. Alors,
30 000 personnes par an.
Ce qui n'est pas rien.
Oui.
Donc là, finalement, on est en train de mêler. Je voudrais qu'on parle aussi de... Oui.
Juste un mot.
Ah oui, Raphaël Femme-Guerin, allez-y, je vous en prie.
Je fais une heure et demie pour venir jusque-là, alors si je prends pas le micro, quand même.
C'est vrai qu'il y a les bouchons et tout, etc.
Clochette. Cette histoire d'électricité.
Avec tes mots.
Concrètement sur le terrain, le préfet des Hauts-de-Seine a convoqué l'ensemble des mairies pour essayer de parler de cette communication.
Parce qu'il y a une circulaire là-dessus. Hein.
Ah oui, bien
envoyé
sûr.
Envoyé au préfet.
C'est le préfet qui a fait une réunion avec l'ensemble des mairies.
Oui, mais parce qu'il a reçu la circulaire.
Et moi, j'ai fait une petite recherche, on va dire, sur l'ensemble des mairies avoisinantes. Comment ils ont communiqué sur cette histoire de coupure d'électricité.
Oui.
Je peux dire que c'est très anxiogène. C'est vraiment très anxiogène parce que aujourd'hui, on ne connaît pas comment ça se passe. Alors, je ne vais pas citer la ville, mais je vais vous dire juste 3-4 mesures qui mettent... les coupures interviendront entre 8h et 13h. Et entre 18h et 20h, sur des zones géographiques définies, qu'on ne connaît pas. Aucune coupure le week-end de la nuit, d'accord. Les déplacements devront être limités au maximum en raison de la circulation et les transports en commun. Ça veut dire qu'il n'y a plus de feu tricolore, donc il y aura une pagaille, et que si demain on n'a plus de circulation qui est bouchée et bloquée, comment on va faire sans les feux? Donc ça, on ne le sait pas. La meilleure, c'est que les informations sur l'application EcoWatt, donc à J-3 confirmé, à J-2 précisé, à J-1 avec la liste des villes concernées. Donc on ne connaît toujours pas, mais qu'à J-1, il faudrait quand même qu'on essaye de trouver entre communication des villes pour les gens, pour qu'on puisse qu'ils puissent savoir, et entre une politique gouvernementale qui dit les villes
n'ont pas de coupure.
C'est
carrément loin, Jean-Pierre.
Ce qui est en train de se passer en ce moment. Les gens qui sont en train d'acheter des groupes électrogènes.
Oui.
Oui.
Non, c'est vrai.
Moi, j'achète des bougies.
C'est vrai.
Ils ont raison parce
que. Moi aussi, j'ai pris des bougies.
Entre 18h et 20h, sans chauffage, je ne sais pas comment tu tiens chez toi. C'est la première chose. Peu importe.
Pourquoi
la
deuxième, moi, j'ai que de l'électrique,
j'ai pas de gaz. J'ai pas de gaz, ce problème-là.
Mais vous n'avez pas de gaz.
J'ai du bois.
Du bois.
Mais regardez la cohérence. D'abord, c'est entre telle heure et telle heure et telle heure et telle heure. C'est-à-dire que le gars, il va partir au boulot le matin. Moi, je suis à sa place, je ne vais pas au bureau, je reste chez moi. Il n'est jamais sûr de rentrer chez lui, parce que peut-être qu'il y aura des coupures. On dit deux heures, mais deux heures, ça peut faire trois heures, quatre heures. Au bureau, s'il n'y a pas d'électricité, je ne vois pas comment tu peux bosser. On est d'accord ? À la maison, tu restes. Bah, s'il n'y a pas d'électricité, tu ne peux pas bosser non plus. Et puis.
Et ils ont des frigos, on y a pensé, les congélos et tout, etc.
Ouais, mais il fait froid, donc le frigo. Tu mets ta bouffe dehors. Mais le pire, moi, j'étais en train de penser à ça tout à l'heure parce que maintenant j'ai une voiture hybride. Mais j'ai dit, mais en plus, si les bagnoles elles sont en train de recharger, mais on fait péter là, on fait péter le pays. Ouais. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Rester chez eux. Comment tu fais? On te dit, ah ben l'école, entre telle heure et telle heure, elle ferme. Mais toi, t'es au bureau. Tu vas chercher tes gosses comment? Et qui garde les enfants? Enfin, il y a une gestion.
Il y a une gestion, ouais.
Ce qu'on nous dit, en fait, ce qu'on nous dit honnêtement, c'est pas gérable.
Mais après, c'est pas.
Donc, si on nous dit la vérité.
Il y a un point très important. En cas de coupure dans un secteur comprenant une école, les enfants ne pourront pas être accueillis sur la demi-journée concernée. Oui. Les parents seront prévenus la veille au soir.
Et pour
donc
le boulot,
moi,
ils font,
avec
pour
ma
boulot.
Femme qui travaillons, voilà. Et nos enfants, comment on va faire? Donc, on serait obligé de ne pas aller au travail parce qu'on va être informé la veille au soir. Et moi, on va dire, je travaille pour une multinationale et que eux, ils comprennent pas les problèmes de la France. Donc, je vais leur dire, non, je pense qu'à certains moments, il faudrait prendre le taureau par les cornes, comme on dit, essayer de parler vraiment vrai. Aujourd'hui, on n'a aucune politique claire. On est encore une fois dans l'interrogative. On c'est pas clair. Donc, avant de communiquer, avant que Monsieur le Préfet essaye de voir avec les maires, il faudrait vraiment être sûr du scénario et informer les citoyens.
On voit bien quand même assez la cacophonie.
On a dit aux Français. De 1 ou 2 degrés chez eux.
Attends, Carmelo, je suis un prémètre.
Et maintenant, on leur dit, pendant 2 heures ou 4 heures, t'as plus de chauffage chez toi.
Ouais.
Tu vas aller où? Dans ta voiture? Tu fais tourner le moteur?
Non.
Puis
non.
Tu mets les gosses et puis tu mets le chauffage? mais à un moment donné.
Là, c'est vrai ça, comment tu fais?
Dis-moi comment tu fais.
On a fait encore une fois, je parle, mais je pense que c'est le cas pour pas mal de villes. On a fait énormément d'actions pour sensibiliser les gens. Comment on va réduire la température? Comment on va essayer de gagner un petit peu pour. Mais à la fin, je me dis, on se pose la question. On est vraiment en France, dans un pays développé.
On est dans un pays en Europe.
Est-ce qu'on est venu?
C'est pas que la France. On va surtout tuer.
Attends,
la France n'est pas la seule concernée.
L'été prochain, tu auras le même sujet, mais à l'inverse, avec les climatisations.
Jean-Pierre Colombier. On est la France, pas le monde. Mais nous avions un outil nucléaire qui nous aurait permis de ne pas avoir ce problème. Or, les politiques successives de Jospin à Hollande et
exactement.
Macron.
Exactement.
Parce qu'on oublie que Macron a été quand même secrétaire général de François Hollande.
Fessenheim
n'a pas relancé la politique d'entretien des autres, a demandé même la fermeture d'autres centrales nucléaires.
Oui, mais à sa défense, ça a été fait dans des conditions différentes. Il y a eu Fukushima où c'était vraiment, une expérience qui a mis un petit peu.
Ça n'a rien à voir.
Oui, mais c'était le moment. C'est parce que Fukushima, il y a eu.
Un événement, un tsunami.
Et c'est pour ça, on dit
qu'on ne sait jamais.
Non, c'est inacceptable. C'est inacceptable pour un pays qui est champion du monde dans le nucléaire, qui s'est toujours vanté de ça, que ce soit à l'intérieur du pays ou à l'extérieur, c'est honteux. Parce que c'est pas dû à la guerre en Ukraine, comme vous l'avez dit.
En fait, c'est
dû à une mauvaise gestion gouvernementale. Je rappelle que Emmanuel Macron est au pouvoir depuis
8 ans.
Voilà,
il était
secrétaire général de l'Élysée.
Et ministre de.
Donc, c'est une mauvaise gestion des centrales nucléaires, parce que rendez-vous compte qu'il n'y en a que 18 de mémoire qui fonctionnent sur 56.
C'est considérable.
On essaye.
18 sur 56.
Voilà, et Emmanuel Macron essaye, le président de la République et le gouvernement essayent de lier ça à la guerre en Ukraine. Mais ça n'a rien à voir.
Je pense qu'en France, on n'a pas de gaz, on n'a pas de pétrole. C'est le cas sur pas mal d'Européens. Mais les Allemands, par exemple, ils ont investi dans l'éolien et du coup, ils ont vraiment augmenté leur parc. En France, on était vraiment très timide.
Attends, les Allemands, tu sais ce qu'ils font? Ils sont en train de réouvrir les mines de charbon.
La France, on a ouvert une aussi.
Chacun tour de rôle. Karim Alouache, maître David Libeskind, Jean-Pierre Colombès.
L'Allemagne est dans une catastrophe énergétique sans précédent. Elle s'en sort mieux que la France avec ses mines de charbon.
Elle s'en sort mieux que la France, attention.
Non, pas du tout. L'Allemagne, au niveau énergétique, n'est pas un exemple. D'ailleurs, elle essaye en dessous de table d'aller renégocier avec les Russes, les Chinois, parce qu'elle est dans une situation catastrophique.
Sans les Européens.
Elle carbonise elle met du CO2 vraiment de manière catastrophique. Nous, on avait d'abord une souveraineté énergétique avec le nucléaire. On avait une compétence reconnue dans le monde entier. Mmh. Il y a eu, on parle
il paraît qu'il n'y a plus de soudeurs qui viennent à locaux.
Fukushima, on parle.
Et on les ramène de l'Amérique du Nord.
Un phénomène qui arrive, le cas de Fukushima, c'est quelque chose qui est exceptionnel. Et je trouve que ça a été quand même bien géré, mine de rien. Oui. Bien géré, mine de rien. Il y a eu pire avant, c'était Tchernobyl. Mmh. Alors, ils ont sacrifié des Russes et des soldats. Mais ça a été aussi géré. Mais on ne peut pas dire qu'on abandonne tout. Rien. On abandonne l'entretien, mais on abandonne l'entretien de tous les services publics, les transports, les voies ferrées, les incidents techniques. Maintenant, c'est le réseau, c'est le réseau énergétique. Parce que on se dit, le rôle de service public, de produire de l'énergie, de permettre aux Français le minimum, c'est d'avoir de la lumière et de l'électricité pour vivre. On n'est même plus capable de le fournir.
Oui, alors, ville, c'est grave
quand même.
En tout cas, Emmanuel soulève là effectivement quelque chose que beaucoup de gens pensent.
C'est incroyable.
Attendez, maître David Libeski.
Non, mais ce qui est incroyable, c'est que nous, qui étions champions en fait du nucléaire, de l'électricité, on est obligé d'importer. D'acheter.
On exporte aussi, attention.
Non, on est obligé d'importer de l'électricité. On est obligé d'importer.
Une mise en garde.
Oui, laquelle Jean-Pierre Colombier.
J'aimerais faire une mise en garde parce que j'ai déjà fait sur le site de l'association dont je suis porte-parole, c'est-à-dire attention à la communication du gouvernement. Pourquoi ? Parce qu'il ne vous échappera pas, si vous écoutez bien les uns et les autres, qu'il y a une confusion totale et des discours discordants. Mais ce n'est pas pour rien. C'est pas lié au hasard. L'idée, c'est quoi ? C'est d'avoir des gens qui disent tout et son contraire pour au final avoir raison. C'est-à-dire que quand vous avez quelqu'un qui dit blanc, l'autre qui dit noir, il y aura bien un moment donné, lorsque ce processus sera terminé, pour dire « Ah ben, vous l'avez bien dit ». C'est comme ça que ça fonctionne. Cette communication qui paraît chaotique ne l'est pas tant que ça. Il y a une volonté réelle de semer, d'avoir quelque chose, de dire quelque chose de très confus, d'anxiogène. Il y a une part de mensonge avéré. Et puis, alors, quand on a des ministres comme Véran, qui n'ont pas cessé de mentir depuis 2 ans et demi, on le sait, qu'on a Macron qui n'a pas cessé de mentir. J'en veux pour preuve la future. Mais non, mais c'est pas moi, suffit de reprendre les discours, Adil. Reprendre les discours sur la retraite, notamment. C'est le même président qui, en 2016, disait qu'il ne fallait pas modifier l'âge de la retraite, que c'était scandaleux, cynique, tout ce qu'on veut. Et c'est la même personne qui aujourd'hui dit que c'est indispensable. Et ben, c'est exactement la même chose.
En 2017, il tenait un discours différent. Il y a des vidéos qui le montrent.
C'est constamment. Donc c'est le chaud, le froid, c'est émotion, on travaire sur l'émotion. On
mais après, il
faut qu'on avance.
Non, mais bon, je ne pense pas que ça leur profite. Le fait qu'il y en a un qui dise A et l'autre B, donc, au sein du gouvernement, ça ne leur profite pas.
Parce que c'est pour ça que j'ai dit qu'il est
ça crée la cacophonie,
surtout en termes de communication.
Et les Français n'aiment pas ça. Je veux dire, c'est...
Messieurs, oui, mais il n'y a pas de contre-pouvoir. Autre sujet que je voudrais vraiment, parce qu'il est 19h12, et il faut qu'on avance. J'aimerais, vous savez, cette conférence, je ne sais pas si vous avez suivi, qui a été fortement perturbée à Bordeaux, et notamment deux personnalités, deux députés, et les filles. L'un qui s'appelle Louis Boyard, que vous connaissez, celui qui a eu évidemment un vif échange avec Cyril Hanouna, et puis Carlos Bilongo, qu'on a reçu ici même sur ce plateau. Qui a porté plainte, Carlos, qui a été victime, vous savez quoi, de propos racistes en pleine Assemblée nationale. Alors, des individus sont arrivés cagoulés, de s'introduire dans la salle avec des barres de fer, donc des armes, d'accord, et qui ont proféré donc des slogans racistes. Ça craint, messieurs.
Enfin, si je peux me permettre de prendre
Allez-y,
la parole.
Maître.
Non, David, ça craint, comme vous dites, parce que. En plus, c'était à la fac de Bordeaux. Faut quand même le signaler aux gens qui nous écoutent. Donc, dans une université.
On est en train de banaliser la violence.
Tout à fait. Ce qui me choque, en fin de compte, c'est que, c'est une vingtaine, une trentaine d'individus cagoulés avec des barres de fer qui avaient des slogans racistes et qui avaient des étiquettes. Il y a l'Action française, quand même, qui est.
C'est des militants d'extrême droite, là, clairement.
Oui, mais il y avait quand même les Actions françaises. Et Action française, vous savez, c'est une. Alors, à la base, c'est une organisation royaliste, à la base, qui est devenue d'extrême droite. Et alors, le gouvernement, en fait, essaie de dissoudre des pseudo-mouvements de l'extrême gauche. Il fait rien pour Action française, alors qu'on sait qu'Action française, c'est un créneau, en fait, de personnes.
Il a quand même déçu quelques corpuscules d'extrême droite.
Génération identitaire. Mais quand même, Action française, ça reste quand même l'organisation principale, historiquement parlant, de l'extrême droite. Deuxième point, je suis assez étonné. Quand vous avez, le ministre de l'Intérieur s'est contenté d'un tweet dans lequel il disait soutenir évidemment ces deux personnes que vous avez citées, Adil, qui ont été victimes.
Dont l'un était ici présent.
Voilà, qui ont été victimes de ces gens racistes. Mais en fin de compte, il leur dit de porter plainte. Bon, ils ont déposé plainte, mais je ne comprends pas pourquoi le ministre de l'Intérieur ne se saisit pas de ce dossier. Il ne leur donne pas. En fait, lui-même peut déposer plainte pour qu'il y ait une enquête préliminaire. Ces individus masqués et cagoulés, ils ont commis une infraction qui s'appelle participation à un groupement en but de commettre des violences, hein, des dégradations ou des violences. Donc, il y a une infraction qui existe.
Vous savez quoi, on a retrouvé l'extrait. On l'écoute ?
Oui, on l'écoute.
On donne la parole. On l'écoute. Écoutez. On voit bien l'intervention
mais
cagoulés, ils sont
voilà,
armés,
donc participation
avec des barres de
un
fer
en vue de commettre des violences. Donc je ne comprends pas que en fait le ministre de l'Intérieur en fait n'est pas saisi en fait.
Alors
la police, puisque lui-même il dirige la police.
Je continue de distribuer la parole. On marque une pause et on se retrouve tout de suite après. Je donne la parole à Rafik Tamgari, Jean-Pierre Colombier. C'est sur ce sujet Karim Alouache. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, Les Informés, présenté par Adil Farkan.
19h23, Les Informés, dernière ligne droite, avec Maître David Limeskid, avec Rafik Tamgari, avec Jean-Pierre Colombiès et enfin avec Karim Alouache. Messieurs, nous continuons de parler, vous savez, de cet incident, de cette réunion, conférence qui a été perturbée à Bordeaux. Deux députés qui ont décidé de porter plainte puisqu'ils ont eu affaire à des individus cagoulés. On parlait de l'association, de ce mouvement,
oui.
Action française.
Voilà, j'ai juste terminé en fait et je te laisse la parole. Parce que j'ai oublié de dire, en fait, la police est intervenue et je suis assez étonné en fait qu'ils n'ont pas été arrêtés. Parce qu'en fin de compte, pour les retrouver.
Vous, avocat, ça vous.
Ça va être difficile parce qu'ils sont masqués.
Ça vous intéresse ?
Bah oui, parce qu'ils allaient commettre une infraction, ils allaient commettre des violences.
Alors, commandant de la police, Jean-Pierre ?
Non, il y avait une intervention avant.
Tariq, vas-y.
Non, mais je vais être volontairement provocateur.
Pourquoi ils n'ont pas été arrêtés ?
Non, mais moi, ça me fait doucement marrer ce que j'entends. Là.
Oui.
Excusez-moi, je suis désolé.
Allons-y.
Mais parce que, je veux dire, l'extrême gauche et la gauche justifient avec le sourire, avec la banane, les activistes. Alors, je ne justifie absolument pas ce qui s'est passé, on va être très clair. Je ne légitime pas des groupements armés, quels qu'ils soit. Par contre, j'aimerais que ce soit pareil de l'autre côté. Parce que ça fait des années, je dis bien des années, que LFI, en premier lieu, justifie les actions des Antifa, des Black Blocs, où ça casse, ça cogne, on pille des magasins, on frappe tout le monde, on s'en va. Et je rappelle que les discours de haine viennent notamment de LFI et de certaines Sandrine Rousseau qui, à une certaine époque...
Mais je vois pas le rapport, en fait, avec...
Qu'est-ce qu'elle disait ? Attendez,
il faut une opposition de combat et une opposition radicale. Eh bien, ce que j'ai envie de dire, ce qui se passe.
Très oui, mais là, c'est le réponse. Ça n'a rien à voir, c'est pas une manifestation.
Ça va débattre. Ça fait débat.
En fait, que tu protèges les activistes d'extrême droite qui ont des barres de fer. Tout ça parce que c'est les filles qui sont agressées.
Juste pour.
C'est incroyable.
Redire ce qu'on a toujours dit et qu'on a toujours été droit dans nos idées. Je me dis, il faudrait lutter contre tous les extrêmes. L'ensemble des citoyens qui sont anti-extrémistes et l'extrémiste, que ce soit de la droite ou de la gauche. Parce qu'on a tendance à parler que de l'extrême droite et on a tendance à oublier l'extrême gauche. Et c'est là où je me dis, LFI comme l'extrême droite, ils ont eu des combats en commun. En l'occurrence, essayer de faire alliance.
Je vois pas le rapport, en fait.
Parce que c'est une idéologie.
Là on te parle de faits précis, on ne te parle pas de politique. Là, vous me parlez de politique, mais ça n'a rien à voir.
C'était contre des politiques.
Ça m'a énervé, Maître Libeskind, je vous le dis, moi. Vous l'avez énervé, Jean-Pierre, Rafik Tamgari.
Tu cautionnes le racisme de ces gens-là, en fait.
Tu cautionnes le racisme.
Mais non, il ne faut pas dire que je cautionne. On lutte contre le racisme.
Ces gens préféraient des slogans racistes.
Contre l'extrémisme qui soit de tout
bord. C'est pas comme ça qu'on lutte. C'est pas comme ça qu'on lutte contre le racisme.
C'est ce que j'ai du mal à dire tout le temps. On lutte pas juste contre un bord. On lutte des deux bords, des extrêmes, des deux bords.
Attendez. Dans un Karim Alouache,
public.
Dans le micro.
Vous entendez là ?
Oui.
Entrer dans un bâtiment public. Je vous rappelle qu'il y a des gens qui sont entrés dans des écoles. Je vous rappelle qu'il y a des gamins, un gamin bondi qui est mort dans un centre aéré.
Oui.
Pouvoir entrer dans un bâtiment public.
Public.
Avec un dans le but affiché armé.
Ils sont armés.
Et ne pas pouvoir être poursuivi, c'est tout simplement un scandale.
Merci Karim.
Je condamne pas la police. Attention, je dis que c'est un scandale. Et je dis qu'à un moment donné, il faut qu'on se dote de moyens. Tes enfants, quand ils sont à la fac, ils doivent être en sécurité. Moi, j'étais étudiant, il y avait des débats.
Imaginez, ça tourne mal. C'est vrai, cette histoire-là.
Ça n'arrivait pas.
Et qu'un gamin prenne une barre de fer.
Bah, regarde les écoles aux États-Unis.
Non, non, mais c'est.
À chaque fois, ils sont. C'est pas
normal. D'abord, c'est pas normal qu'on puisse rentrer dans un établissement public armé. C'est fou. Regardez, on imagine pas que des gens rentrent dans un aéroport avec des balles de baseball.
Non, mais moi, j'écoute.
Non, mais attends, j'attaque pas la police.
Bien sûr, je n'attaque pas la police.
Il y a eu des brebis galeuses. Il y a eu toujours des cas exceptionnels, mais on ne fait pas des généralités.
Du ministère de l'Intérieur.
Non, mais c'est.
Je réponds, c'est pas un problème.
Ce mouvement du ministère de l'Intérieur. Pour ce mouvement.
Alors, dans l'ordre.
Qui était non, mais
attendez, vous soulevez tous des cas. Qui, attendez, oui, s'il vous plaît. On a le porte-parole de la police indépendante.
Non, oui, voilà, oui, attention. Pas de la police.
J'ai compris. C'est pour ça que j'ai dit le porte-parole de la police indépendante.
C'est le chef de Nottingham.
Monsieur le porte-parole. Monsieur Jean-Pierre Colombiès. Monsieur Jean-Pierre Colombiès.
Je le précise, et qui, à une certaine époque, a mis en exergue et a dénoncé des méthodes de maintien de l'ordre.
Vous dites quoi, mais qu'est-ce qu'il dit là?
Des choses très simples.
Karim Aloj vous interpelle sur un truc. Maître Libeski.
Il a rappelé des faits. Il a rappelé des faits.
Je
bois du petit lait. Je vous explique pourquoi. Parce que quand la police intervient sur des groupes ultra-violents et que ça coince et que ça craque et que ça bave, comme disent les médias, tout le monde est d'accord pour tomber sur le dos de la police. Et je dis simplement que quand on n'intervient pas pour interpeller des Antifa ou des Black Blocs parce qu'on a peur qu'il y ait un surincident, remember Malikou Sekine et j'en passe et des meilleurs, eh ben, ils ont les mêmes consignes, que ce soit contre les Antifa, contre les mouvements identitaires et d'extrême droite. Parce qu'ils se disent, à partir du moment où on va intervenir, ça va casser.
Jean-Pierre, excuse-moi, tu politises le débat, tu politises le fait.
Maître Libeski,
attendez,
Maître Libeski, d'abord.
Excuse-moi de te dire ça, mais il y a beaucoup de mauvaise foi, parce que quand tu parles des Black Blocs, quand tu parles des Antifa, leurs actions, ils les font en manifestation. Là, laisse-moi terminer. Dans une manifestation où il y a des centaines de personnes, où il y a des milliers de personnes, là, on est dans le cadre, en fait, d'une scène où il y a une vingtaine de gens cagoulés avec des barres de fer qui sont devant une université. On n'est pas dans le cadre d'une manifestation où ils balancent des slogans racistes. Excuse-moi. Tu peux pas comparer la situation. Après, moi, je politise.
Je la
tu politises le débat parce que toi, tu fais référence. Tu fais référence à l'extrême gauche. Enfin,
en tout cas, moi, je pense.
Voilà, aux Antifa et en fait aux Black Blocs. En fait, tu essayes de politiser le débat.
Non, mais tout le monde doit condamner ce genre de choses.
Moi, je condamne que ce soit
exactement.
Quel que soit le groupe.
La condamnation, ça vient pour des
groupuscules
d'extrême droite et d'extrême gauche. C'est tout. C'est ça.
Moi, j'ai pas politiser le débat.
Non.
Je dis ça.
Bah si, parce que en fait.
Alors, t'as pas compris ce que j'ai dit, c'est dommage.
Si, tu les compares.
Tu n'as pas compris.
Alors, non, on va pas répéter, s'il vous plaît.
Non, mais j'ai dit simplement que.
Non. Allez-y, Jean-Pierre, en deux secondes,
on va rendre l'antenne. Quand on intervient sur des groupes ultra-violents, il faut être prêt à aller jusqu'au bout et donc à casser.
Et le ministre de l'Intérieur, oui.
Donc,
et
le ministre blessé.
Non, 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 je dois rendre l'antenne,
Il a dit la liberté d'expression, le ministre de l'Intérieur.
Oui, oui.
Justement, Gérard Darmanin, il a tweeté. La police a dû intervenir hier pour protéger deux députés qui avaient été menacés par plusieurs dizaines d'individus. La liberté d'expression est une liberté fondamentale et ce qui s'est passé est inacceptable. J'invite les parlementaires à déposer plainte s'ils ne le font pas. S'ils ne le font pas.
Mais voilà. Il les a pas arrêtés. Alors, il reconnaît qu'il y a une infraction, mais il les arrête pas.
Alors, les députés, s'ils ne portent pas plainte, ils font une faute. Moi, je voudrais une seconde, très rapidement. D'abord, si je peux me permettre, la référence à Malikou Sekine, pour moi, elle n'est pas du tout appropriée.
Bah oui.
Mais je voudrais dire. Non, parce que c'est.
Allez, je dois rendre l'antenne, messieurs. Je dois rendre l'antenne.
Et j'étais dans le quartier quand c'est arrivé. Mais ce que je veux dire, c'est que dans ce moment anxiogène, le Covid, les agressions, l'électricité, etc., moi, je voulais souhaiter un très bon Noël à tout le monde.
Exactement. Voilà. Très bonne fête à tout le monde. C'est vrai, on a tendance à l'oublier, à le dire. Vous, Rafik, en 10 secondes.
Alors,
5
en 10 secondes, moi, j'avais promis à une connaissance de faire un petit mot de compassion à ce qui se passe en Iran, parce qu'il a beaucoup de
on a eu l'occasion de le traiter ici.
En Iran. Donc une pensée à tous les Iraniens et les Iraniennes qui œuvrent pour la paix.
Et les prisonniers
politiques. Et effectivement, et on continuera de le traiter ici, les événements en Iran. Merci à Maître David Libeski, merci à Rafik Temgari, merci à Jean-Pierre Colombiès, merci à Karim Alouache.
Et très bon match demain pour le Maroc.
Demain, rendez-vous à ne pas manquer. 16h, le Maroc face à, évidemment, au Portugal, mais également aussi la France face à l'Angleterre. Rendez-vous du week-end à ne pas manquer demain. Ça va être bon, ça va être bien. Merci à Anthony, à la réalisation. Merci à vous tous. On se retrouve avec autant de plaisir. Pas de Time Sports, quoi, ce soir. Pas de Vanessa ce soir. Exceptionnellement. À lundi avec autant de plaisir. Et puis, surtout,
On ne lâche rien.
Ciao.
Retrouvez les informés tous les jours de 18h à 19h30 et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.